France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Tina Turner, l'histoire d'une survivante. Le 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans, cette femme de record, icône à la voix puissante et à l'énergie volcanique qui a vendu 180 millions de disques et 200 millions de places de concert, s'éteint. En 50 ans de carrière, elle aura ouvert la voie à une génération de chanteuses. Première femme noire à remplir les stades, elle s'est imposée dans une industrie de la musique profondément sexiste et raciste. En coulisses, tout au long de sa vie, elle affronte de terribles épreuves. Enfant des champs de coton, abandonnée par ses parents, elle est repérée à 17 ans par le guitariste Ike Turner, son futur mari. À ses côtés, la chanteuse vit un véritable enfer. Dénigrée, battue, violée, son cauchemar dure 16 ans. En juillet 76, Tina Turner prend la fuite. Une liberté qu'elle paye au prix fort. Mais par la force de sa voix et par sa ténacité, elle fait un comeback inattendu dans les années 80. Une résurrection unique dans l'histoire de la musique. Notre invitée aujourd'hui est Rhoda Chococam, journaliste et critique musicale. Elle est l'autrice du livre intitulé « Sensible, une histoire du R&B français » paru aux éditions Audimat. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Lisiane Larbani. Rédaction chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Printemps 2009, Tina Turner célèbre 50 ans de carrière par une tournée exceptionnelle. Et cette fois, c'est vraiment la dernière. La mamie du rock, comme l'appelle son ami Mick Jagger, se retire. 90 concerts à travers toute l'Europe et l'Amérique du Nord. 132 millions de dollars de recettes. Le show est spectaculaire et l'un des plus lucratifs de la décennie. Sur scène, Tina Turner, 70 ans, n'a rien à envier aux jeunes Beyoncé, Rihanna et autres Christina Aguilera. Non, c'est un volcan dont l'énergie et la voix ont bâti sa réputation de légende de la musique. Et même si son dernier album est sorti 10 ans plus tôt, elle continue d'enflammer le public avec des tubes devenus incontournables. Private Dance, We Don't Need Another Hero, What's Love Got To Do With It et forcément, The Best. Jupe à franges ou robe à paillettes qui dévoile ses longues jambes, chaussée de talons hauts, Tina Turner, véritable bête de scène, côtoie les dieux du rock'n'roll. Mais en loge, comme elle le raconte dans son autobiographie, la chanteuse fatigue et lutte contre de nombreuses douleurs, tandis que son remède contre l'hypertension l'empêche d'atteindre les plus hautes notes. Et pourtant, à chaque concert, Tina Turner chante et danse comme une folle et offre à son public l'un des plus grands moments de sa carrière.
Après ce dernier spectacle, je suis rentrée à l'hôtel. Je disais rien. C'était fini, j'en avais parfaitement conscience. Je me suis levée le lendemain matin et j'ai pris l'avion avec Erwin. J'ai pris ma place dans mon fauteuil et je suis restée immobile, calme et posée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai songé. J'y retourne plus. Après avoir bossé si dur pendant tant d'années, j'étais prête à raccrocher les gants. C'était le bon moment si je voulais que mes fans gardent le meilleur souvenir possible de moi. J'avais ma fierté et j'ai toujours eu le bon timing. J'étais prête. Je disais adieu à Proud Mary, je rangeais mes chaussures de danse et je rentrais chez moi.
Au terme d'une telle carrière, Tina Turner peut être fière du travail accompli. C'est sûr que la chanteuse a toujours eu le bon timing, comme elle l'écrit. un instinct aiguisé qui, tout au long de sa vie, l'aidait à fuir au bon moment, à survivre même. Car Tina Turner revient de loin. En l'occurrence, du Nutbush, dans le Tennessee, là où un siècle plus tôt, les planteurs blancs se sont installés, emmenant avec eux des esclaves noirs qu'ils exploitent dans les champs de coton. Anna Mae Bullock, née là, au bord du Mississippi, le 26 novembre 1939. À Nutbush, la majorité de la population descend directement de ces victimes de la traite négrière. Parmi eux, le père de Tina Turner, Floyd Richard Bullock, et sa mère, Zelma Priscilla Curry. La famille Bullock vit dans une maison en bois typique du sud des États-Unis et travaille dans les champs. Dans le jardin poussent des fruits et des légumes, de quoi ne jamais avoir le ventre vide. La semaine, on travaille dur, et le dimanche, on prie à l'église. Enfant, Anna Mae est une tornade, turbulente, hyperactive, toujours prête à faire les 400 coups. Elle insupporte sa mère, beaucoup plus tendre avec son aînée, Aline. Zelma est très violente avec la petite Anne. Elle lui tire les cheveux, la gifle ou la frappe à coups de ceinture. Pour éviter les raclées, la gamine se trouve des cachettes, sous les lits ou dans les arbres. Elle a aussi une autre échappatoire, le chant. Anna Mae Bullock a un don, une voix étonnante. Et déjà on la remarque lorsqu'elle improvise des concerts au supermarché, lors du pique-nique ou à l'église. Et puis, lorsqu'elle chante, elle ne tient pas en place. Alors forcément, elle danse.
Knoxville accueillait l'église sanctifiée où on priait lorsqu'on était en ville. J'adorais qu'elle diffère à ce point de notre église baptiste à Nutbush. Quand les fidèles recevaient l'esprit, ils dansaient, tapaient dans leurs mains et chantaient à plein poumon, possédés par Dieu et par la musique. Moi, je chantais et je dansais avec eux. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un concert, surtout quand le son gagnait en puissance et le rythme en frénésie. Je comprenais pas leur religion. Mais le spectacle, le bruit, le mouvement, cette joie pure m'enthousiasmait.
Malgré le chaos dans lequel grandit Tina Turner, il semblerait que l'effet de la musique se soit penché sur son berceau. Mais dans la famille, la situation se dégrade. À cette époque, Anna Mae a 11 ans. Sa mère, victime de violences conjugales, quitte la maison. Puis, 2 ans plus tard, c'est son père qui claque la porte. Les gamines Bullock se retrouvent livrées à elles-mêmes, contraintes de vivre tour à tour chez leur grand-mère, leur tante. Au sortir de leur adolescence, elles retournent auprès de leur mère. Elles vivent désormais à Saint-Louis, dans le Missouri. Il se trouve que cette ville américaine est au carrefour de nombreuses migrations. On y croise des Irlandais, des Allemands, des Italiens et des familles afro-descendantes. C'est l'un des berceaux de la musique noire américaine, où en pleine ségrégation, on danse dans les clubs de blues et de jazz jusqu'au bout de la nuit. Une musique avec laquelle a grandi Anna Mae, qui écoute Josephine Baker, Ray Charles ou B.B. King. Dans la chaleur moite des soirées d'été du quartier d'East Saint-Louis, les femmes portent du rouge à lèvres, des robes décolletées dans le dos et chaussent des talons hauts. Les hommes les conduisent en boîte de nuit au volant de grosses Cadillacs. Et à la fin des années 50, un groupe fait salle comble tous les soirs. Ike Turner and the Kings of Rhythm, les rois du rythme. Ike Turner a 25 ans, c'est le musicien le plus connu des clubs de Saint-Louis. Sa chanson Rocket 88 est considérée par certains spécialistes comme le tout premier morceau de rock'n'roll. Et il en jette celui-là, avec sa silhouette mince, habillé d'élégants costumes, ses cheveux courts et plaqués en arrière. Ike Turner fait tourner la tête des filles. Ses yeux sombres, sa bouche encadrée par une large moustache, durcissent son visage et lui donnent l'air d'un bad boy. Ce qu'il est d'ailleurs. Oh oui, il a une sale réputation, Ike Turner. C'est un impulsif, un colérique, un violent. Ce qui ne l'empêche pas de multiplier les conquêtes. Sauf que Ike n'est vraiment pas le type d'homme d'un lamet. Elle le trouve, je cite, « maigre et moche ». Mais lorsqu'il prend sa guitare ou joue du piano, alors là, c'est autre chose. Elle est comme hypnotisée. Anna May a alors 17 ans. Elle suit des études d'infirmière et rêve d'être chanteuse. Elle est persuadée que Ike Turner pourra l'aider à accomplir son rêve. Lui qui est si bosseur, si talentueux. C'est qu'elle envoie défiler des femmes sur scène. Lors de concerts, il n'est pas rare que Ike improvise des scènes ouvertes. Et elles sont nombreuses à casser la voix dans l'espoir de l'impressionner. Alors un soir, la jeune Anne prend son courage à deux mains et se lance sur du B.B. King. Ike Turner n'en revient pas. Mais qui est donc cette gamine à la silhouette si frêle et à la voix si puissante? Une chose est sûre, hors de question de la laisser filer. Il lui propose donc de devenir la chanteuse des Kings of Rhythm. La jeune femme est aux anges. Enfin, elle le sait, elle le sent. Elle va devenir une star de la chanson. Le guitariste renomme son groupe Ike and Tina Turner Review. Ce n'est plus un groupe d'hommes, mais un duo composé d'un homme et d'une femme. C'est plus vendeur, et c'est la parité avant l'heure. Mais on le verra, le respect des femmes pour Ike s'arrête là, à l'affichage. Il décide également de baptiser Anna May, devenue sa compagne, Tina Turner. Tina, parce que ça rime avec Sheena, personnage d'une série télé. Et Turner, pour que l'on croie que le couple est marié. Si plus tard, la chanteuse s'est approprié son pseudo, il est l'invention... La décision de Ike. Et lorsque celui-ci décide, Anna May a tout intérêt à lui obéir.
J'étais enceinte lorsqu'on a connu notre premier succès. On était en train de planifier la tournée. Mais comme on venait de se disputer, j'étais en colère contre lui. Je lui ai dit que je ne voulais plus partir en tournée. Alors il a clarifié ses intentions. Si tu n'y vas pas, voilà ce qui va se passer. Et il m'a tabassé avec un embouchoir à chaussures. Ensuite, il m'a forcé à aller dans la chambre et m'a violée. J'étais tuméfiée. C'est là que tout a basculé et que la torture a commencé, pour ne jamais s'arrêter. Il me frappait avec un cintre, me forçait à m'allonger. Il se dressait devant moi, me battait avec le cintre et même mon sexe enflait. Puis il me violait. Après ça, il me faisait remonter sur scène en me disant « Chante, sale garce, tout ça, c'est de ta faute. »
Cette nuit-là, Anna May Bullock devient Tina Turner et nous l'appellerons désormais ainsi. Une Tina qui vit un quotidien harassant et dramatique, on vient d'entendre. Elle répète toute la journée, puis se produit sur scène le soir. 24 heures sur 24, 365 jours par an, elle travaille malgré les violences quotidiennes répétées qu'il faut cacher. Les viols, oui. Combien de fois a-t-elle dû maquiller ses bleus, ses hématomes? Combien de fois a-t-elle chanté du sang encore dans la bouche? Tina Turner est prise au piège. Et puis comment s'enfuir alors qu'elle n'a pas un dollar en poche? Car elle ne perçoit aucun salaire. Parallèlement à sa vie d'artiste, elle a la charge de quatre petits garçons. Raymond Craig, né d'une aventure avec un saxophoniste. Ronnie, qu'elle a avec Ike. Mais aussi Ike Jr. et Michael, les fils que Turner a eus avec sa dernière épouse. Des enfants malheureux, témoins des violences subies par leur mère ou belle-mère, ballottés à droite et à gauche et qui passent toujours après la carrière de groupe. Tina arrive tout de même à s'évader grâce à la musique. Et le succès de Ike et Tina Turner Review arrive au début des années 60. La chanson A Fool in Love, écrite par Ike, les font connaître du grand public. Une chanson qui parle d'une femme victime de violences conjugales. Tiens donc.
Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong.
En 1966, le succès est enfin au rendez-vous. Ike et Tina se font connaître en Angleterre et en France grâce à leur morceau River Deep, Mountain High. Puis en 70, la chanson Proud Mary remporte le Grammy de la meilleure performance vocale par un groupe de rhythm and blues. Le groupe enregistre et produit de nombreux albums, mais c'est en concert qu'il marque les esprits. Ou plutôt que Tina Turner marque les esprits. Non seulement c'est une impressionnante vocaliste, mais aussi une boule d'énergie, qui joue de son corps, svelte et tonique, pour émoustiller les foules. Vêtue de robes ultra courtes, à volant ou à paillettes, elle dévoile ses longues jambes qui, disons-le, obsèdent des journalistes. Le show est sulfureux, les chorégraphies suggestives. Pour l'époque, Tina Turner est un ovni. Alors, les médias se prennent de passion pour Ike et Tina, couple de génies qui révolutionne le R&B et le rock'n'roll. Et pas qu'en Amérique. Mais personne ne connaît la réalité de ce qui a tout l'air du conte de fées. Ike et Tina se marient. La cérémonie express est organisée à Tijuana, à la frontière du Mexique. Les jeunes mariés passent leur nuit de noces dans un lupanar. Tina est sidérée, tandis que Ike se retourne la tête à la cocaïne. En 68, éreinté par des années de violence et de travail, ce qui devait arriver arrive, Tina Turner s'écroule.
J'ai essayé de me suicider. Pourquoi est-ce que j'ai craqué ce jour-là? Un jour comme les autres? D'abord parce qu'il y avait trois maîtresses d'Ike à la maison. Deux sur les trois s'appelaient Anne. Ça s'invente pas. Pas besoin de mémoriser trop de prénoms. L'une d'entre elles, Anne Thomas, était enceinte de lui. Une autre insulte à mon égard. Il séduisait toutes les femmes de notre cercle. C'était sa manière d'être. Dans son esprit, le sexe était synonyme de pouvoir. Quand une femme lui cédait, il pensait la posséder. Parfois, ses copines devenaient mes amies. Bizarrement, on était dans la même galère. On dépendait d'Ike, on lui obéissait au doigt et à l'œil. Donc on acceptait sa maltraitance. Comme les membres d'une secte, des sœurs épouses.
Tina Turner remonte la pente, revient sur scène et trouve refuge dans le bouddhisme. Déjà adepte des voyants et des médiums, elle voit dans les chants bouddhistes une façon de se connecter à son âme. La pratique du bouddhisme m'aidait à reprogrammer mon cerveau, à entrer dans la lumière, à prendre des bonnes décisions. Elle me rendait plus forte, écrit-elle dans ses mémoires. Oui, de plus en plus forte, et de plus en plus célèbre. Grâce au succès que rencontre sa carrière, Tina Turner se détache de son mari. Dans le monde entier, on reconnaît sa voix de feu, son charisme, son attitude. Et elle est adoubée par les plus grands. Elvis Presley, les Rolling Stones, Cher, Elton John, les Beatles, dont elle reprendra des chansons. En 75, elle joue Acid Queen dans Tommy, la comédie musicale des Who. Et définitivement, elle est une star. Alors que le public se lasse de Ike Turner, de quoi le rendre de plus en plus possessif, jaloux, violent. Mais tout change en juillet 76.
What I'm talking about. one man, and he had the nerve to put me out. Let me tell you what I did now. I got a job as a maid, scrubbing floors like a slave.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Tina Turner.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
On se rendait à l'aéroport. Je portais une robe blanche et Ike mangeait des bonbons au chocolat. Et il m'en a tendu un qui fondait. J'ai juste dit « Ah !» Et il m'a frappé. Je l'ai regardé. C'était comme s'il me poignardait du regard. Il était entré dans une fureur noire. Plus tard, sur le trajet pour se rendre à l'hôtel, il m'a giflé, pour rien. Cette fois-ci, ma réaction n'a pas été d'avoir peur, mais d'être en colère. Je me suis simplement dit « trop, c'est trop ».
Tina Turner a le regard noir. Tout ça, ce n'est plus possible. Elle ne supporte plus que ce salopard la touche, la frappe, l'insulte, qu'il passe ses nerfs sur elle. Cette fois, c'est terminé. Elle ne se laissera plus jamais faire. Va te faire foutre, Ike, lui lance-t-elle. Puis, sur la banquette arrière de la voiture, elle rend les coups de pied et les coups de poing. Sa rage éclate. Devant l'hôtel, les époux Turner apparaissent devant un personnel médusé. Tina a le visage tuméfié, le costume en sang. Face au regard interloqué, Ike dit qu'ils ont eu un accident de la route. Une fois installée dans leur chambre, Tina agit comme elle en a l'habitude. Elle feint de comprendre Ike, de lui pardonner. Il a une migraine, le nez qui saigne, elle lui commande son dîner, lui masse les tempes, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et là, elle attrape une trousse de toilette, noue un foulard autour du crâne, jette une cape sur ses épaules, puis elle sort de la chambre. Elle s'échappe par la cuisine de l'hôtel et se retrouve dans une ruelle. Dehors, la nuit est tombée. Tina se planque derrière les poubelles, puis se fond dans les terrains vagues envahis par les hautes herbes. Et là, elle court, comme elle courait enfant dans les champs de Nutbush. Soudain, elle se retrouve au bord de l'autoroute, balayée par le souffle des camions. Au péril de sa vie, elle s'élance pour traverser. Tant pis, plutôt mourir maintenant, écrasée, que de retourner avec Ike. Par miracle, elle s'en sort et se réfugie dans un hôtel. En larmes, le visage ravagé par les coups, elle s'adresse au directeur. « Je suis Tina Turner. Moi et mon mari, nous nous sommes battus. J'ai 38 cents et ma carte d'identité, mais si vous acceptez de me donner une chambre, je vous jure que je vous rembourserai. » L'homme est touché et lui offre le gîte pour la nuit. Le lendemain, le 4 juillet 76, 200 ans après la déclaration d'indépendance des États-Unis, la chanteuse s'envole pour Los Angeles et demande le divorce. À 37 ans, Tina Turner est libre. Certes, elle s'est extirpée des griffes de son pervers de mari, mais elle est sur la paille. Plus de groupe, plus de musique, plus de choristes. Et la chanteuse est désormais criblée de dettes. En abandonnant le groupe en pleine tournée, elle se met à dos ses équipes et les salles de concert dans lesquelles ils auraient dû se produire pendant encore plusieurs mois. Mais qu'importe le prix à payer, hors de question de se remettre avec Ike Turner. Le revoir, c'est signer son arrêt de mort. Alors elle a un plan. Elle va démarcher les producteurs d'émissions de télé. Elle sera aidée par ses amis du monde de la musique. En 77, la chanteuse Cher l'invite dans son show télévisé. C'est sa première apparition publique depuis qu'elle a quitté Ike. Pour l'occasion, Tina troque ses mini-robes contre un chemisier en soie, un pantalon ample et des talons carrés. Une nouvelle femme se dévoile, plus mature, plus libre.
Ladies and gentlemen, Tina Turner.
En 78, deux ans après sa fuite de Dallas, Tina Turner obtient le divorce. Elle renonce à tout argent et bien durant le mariage. Tout. Mais les juges lui accordent, c'est sa seule demande, le droit de garder son nom de scène. C'est en 1982 que sa carrière redécolle. Notamment grâce à Roger Davis, un Australien ambitieux de 26 ans qui devient son manager. Tina a 42 ans. Autant le dire, pour l'industrie musicale, c'est un âge kakoshim. Son heure de gloire semble être loin derrière, très loin. Certains la croient même enterrée. Davis, lui, au contraire, est persuadé qu'elle va revivre. Et il parvient à la produire pour trois soirs au Ritz, un club ultra select de New York. Un certain David Bowie fait partie du public. Le musicien est en pleine promotion de son album Let's Dance. Sa présence fait son effet et braque les projecteurs sur Tina Turner. Elle est alors repérée par un puissant label, Capitol Records. Voilà, c'est comme ça que Tina Turner bascule dans le monde du rock'n'roll. Et le succès arrive d'une façon étonnante, suite à une reprise du titre de Temptation, Ball of Confusion, enregistrée à la sauce électro. Dans la foulée, elle reprend aussi la chanson Let's Stay Together, d'Al Green. L'accueil est inattendu. Le titre se place au top des charts anglais et américains. Capitol mise alors tout sur l'enregistrement d'un nouvel album. À l'automne 84, Tina Turner, 45 ans, sort son album Private Dancer. C'est un immense succès aux États-Unis et en Europe, avec 8 millions de disques vendus en un an, 5 titres au top 30 et dans le top 10. Son single What's Love Got to Do with It culmine en tête des charts. Au Grammy Awards, c'est une pluie de récompenses. Chanson de l'année, album de l'année, meilleure chanteuse rock et meilleure chanteuse pop. Tina Turner signe ainsi le plus grand comeback de l'histoire de la musique contemporaine. En quelques années, elle devient une chanteuse populaire et une machine à hit. De grandes stars comme Mick Jagger, Elton John, David Bowie et Bryan Adams se l'arrachent pour des duos, tandis qu'elle remplit les stades lors de ses concerts. En pleine ascension, Tina fait ses premiers pas dans le monde du cinéma. Et elle cartonne dans le rôle de la divine Entity aux côtés de Mel Gibson dans Mad Max. Mais la promo du film ne se passe pas comme prévu. Les journalistes sont oppressants et ne cessent d'interroger la chanteuse sur son passé avec Ike Turner. Des questions qui la mettent très mal à l'aise. Personne ne sait qu'elle est une survivante des violences conjugales. Longtemps célibataire, Tina Turner a depuis peu un nouveau compagnon, Erwin Bach, un cadre de sa maison de disques, et elle n'a aucune envie de se remémorer les souvenirs douloureux avec son ex-mari. Alors, après de longues réflexions, pour que Ike appartienne définitivement au passé, elle décide de tout dire dans un livre autobiographique intitulé « Moi, Tina » et publié en 1986.
Les fans de Tina Turner font la queue depuis des heures devant la librairie Barnes & Noble, en attendant la séance de dédicace du livre de leur chanteuse préférée.
J'ai couru, j'ai poussé la foule pour pouvoir apercevoir Tina. Je l'adore, c'est pas de l'amour ça?
La star raconte les difficultés qu'elle a surmontées au cours de sa vie dans son livre intitulé « Moi, Tina ».
Son livre est arrivé dans le top 10 des ventes de l'année. Les gens se seraient arrachés n'importe quel livre, pourvu qu'il y ait sa photo en couverture.
Vous nous venez du Nouveau-Mexique, bonjour.
Votre livre a changé ma vie. Je vous aime. Merci. Tous ceux qui gardent de lourds secrets au fond d'eux se sont identifiés à ce qui lui est arrivé. Et en réalité, c'est comme si elle avait ouvert la boîte de Pandore. Tout le monde continuait à lui parler de son histoire.
Si Tina Turner espérait avoir la paix après l'apparition de ses mémoires, c'est raté. Mais ces révélations changent à jamais le regard de son public. Le monde découvre que derrière cette voix, cette énergie de feu, se cache une petite fille maltraitée, puis une femme violée et battue. En 93, le livre est adapté en film sous la caméra de Brian Gibson. Angela Bassett incarne la chanteuse et Laurence Fishburne son monstrueux mari. Le film, intitulé tout simplement Tina, est un carton au box-office. Et Angela Bassett remporte un Golden Globe. Or, la vraie Tina Turner n'a jamais regardé ce film. Pourquoi l'aurait-elle vu? C'est trop douloureux. Tout a déjà été raconté. Tout a déjà été vécu. Définitivement, la reine du rock, comme on la surnomme, est devenue aux yeux du monde une héroïne, une survivante. Pendant les années qui suivent, Tina Turner multiplie les concerts et les albums. Son 9e et dernier opus, 24/7, sort en novembre 1999. Elle se retire ensuite de la vie publique et coule des jours heureux dans son château au bord du lac de Zurich, en Suisse. En 2007, Ike Turner meurt à l'âge de 76 ans d'une overdose de cocaïne. Les médias ont alors les yeux rivés sur Tina. Que va-t-elle dire? Un porte-parole réagit par communiqué de presse. Tina est au courant du fait qu'Ike est mort aujourd'hui. Elle n'avait plus eu de contact avec lui depuis 35 ans. Il n'y aura pas d'autres commentaires.
Nothing lasts forever. No one lives forever. The flower that fades and dies. Winter passes and spring comes. Embrace the cycle of life that is the greatest love. Go beyond fear. Go beyond fear.
Le dernier projet musical de Tina Turner est un album de chants bouddhistes sorti en 2010 intitulé Beyond, ce qui veut dire au-delà. On en parlait au début de ce récit. Après sa tentative de suicide en 68, elle a trouvé refuge dans le bouddhisme et ne s'en est jamais détachée, chantant tous les jours des mantras qui l'apaisent, qui la rendent plus forte. Voilà donc comment s'est achevée la danse et longue carrière de Tina Turner. Malheureusement, les dernières années de sa vie ont été marquées par de nombreuses tragédies. Problèmes de santé en cascade, qu'elle néglige en privilégiant des médecines alternatives peu efficaces. Elle tente de traiter ses problèmes d'hypertension par l'homéopathie, ce qui lui coûte l'un des serins. En 2013, prise en charge in extremis à l'hôpital, elle survit à un accident vasculaire cérébral, puis à un cancer de l'intestin. Mais toutes ces épreuves ne sont sans doute pas grand-chose face aux drames qui vont ponctuer les dernières années de sa vie, les 5 dernières années. Le 3 juillet 2018, son fils aîné, Craig Richard, se suicide quelques jours avant ses 60 ans. Dans sa seconde autobiographie, parue en 2019 chez HarperCollins, Tina Turner aborde cet immense chagrin. Je sais que je m'en sortirai encore, d'une façon ou d'une autre. Je suis quelqu'un de fort. J'aurais aimé transmettre un peu de cette force à Craig, ou qu'il la trouve en lui. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est entendre mon fils m'appeler encore chéri. Le 8 décembre 2022, son second fils, Ronnie, meurt à son tour à 62 ans. Anna May Bullock rejoint ses enfants 6 mois plus tard.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Tina Turner qui fait bouger tout le monde, y compris en régie. Notre invitée aujourd'hui, Rhoda Tchokokam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et critique musicale, autrice du livre intitulé « Sensible, une histoire R&B français », paru aux éditions Audimat. Donc Tina Turner est une femme noire, elle est née sous la ségrégation aux États-Unis. J'imagine qu'il n'était pas facile de s'imposer dans l'industrie musicale de l'époque, dans ces conditions.
Tina Turner, elle vient aussi d'une lignée de femmes noires qui ont eu beaucoup de succès dans la musique américaine, dans l'industrie musicale américaine. Je pense par exemple à quelqu'un comme Nina Simone, ah oui. Billie Holiday. Donc au final, je veux dire, son succès n'est pas exceptionnel. En revanche, il y a toujours eu des nuances dans la présence des femmes noires dans l'industrie musicale américaine. C'était souvent des contrats abusifs, c'était souvent des partenaires violents. C'était souvent des carrières des innovatrices qui n'étaient pas célébrées de leur vivant, donc souvent des reconnaissances posthumes. Donc dans la particularité de la carrière de Tina Turner, c'est qu'elle a eu une reconnaissance pendant son vivant. Donc la difficulté, ça, pour les femmes noires, ça a toujours été de naviguer une industrie qui, au final, n'était pas nécessairement prête à les accueillir. Mais en même temps, elles ont réussi à s'imposer d'une manière ou d'une autre.
D'ailleurs, nous avons évoqué l'influence qu'a pu avoir le gospel sur Tina Turner dans son amour du chant et de la musique. Quelle place prend le gospel dans les foyers afro-descendants à cette époque aux États-Unis ?
On peut parler de gospel, mais je pense que c'est intéressant de parler de la foi et de la place de la chrétienté en général dans la culture afro-américaine où les afro-américains sont extrêmement croyants et cette chrétienté s'exprime aussi dans un lieu qui devient une institution communautaire qui est l'église noire. Et quand on se retrouve à l'église, on se retrouve pour prier, on se retrouve pour chanter des louanges, mais on se retrouve aussi pour s'organiser parce que l'église noire a un rôle assez important dans le mouvement des droits civiques. On pense par exemple à Martin Luther King qui était un pasteur baptiste.
Pasteur, absolument.
Exactement. Et donc quand on parle de gospel et dans l'extrait que vous avez passé un peu plus tôt, elle parle surtout d'une façon de chanter. Donc quand on parle de l'influence du gospel dans la musique noire américaine, c'est souvent cette façon de chanter où on invoque l'Esprit Saint, on est en extase. Et donc quand on parle de gospel, on parle pas nécessairement de la musique enregistrée, on parle de cette façon de chanter. Voilà, exactement.
Alors qui va s'adapter au rock, on y reviendra plus tard, mais est-ce qu'on peut dire que Ike et Tina Turner sont des musiciens de R&B?
Oui, on peut dire que ce sont des musiciens de rhythm and blues surtout.
Rhythm and blues,
de rhythm and blues et aussi des musiciens de rock and roll.
Ouais. Les deux. Alors justement, c'est ça qui est intéressant.
Ouais.
C'est que les femmes noires étaient dans d'autres styles de musique. Elles entrent dans le rock and roll, qui est une musique blanche occidentale, finalement.
Alors, au final, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, l'histoire du...
J'ai dit une bêtise, là, quand on dit ça. C'est la façon élégante de dire, non, c'est une bêtise.
Non, le rhythm and blues et le rock and roll, quand on pense à l'arrivée du rhythm and blues qui date des années 40, et le rock and roll qui émerge au début des années 50, ce sont sensiblement les mêmes musiques. En réalité, l'histoire du rock and roll et du rhythm and blues est une histoire d'un rebranding. Le rhythm and blues naît avant le rock and roll et ce qui se passe, c'est que la jeunesse blanche américaine est extrêmement fan de rhythm and blues, mais on parle d'une époque où le racisme fait rage, la ségrégation raciale. On ne veut pas que les jeunes blancs écoutent cette musique de noir. Ouais. Et donc, il y a un DJ de Cleveland qui a cette idée, qui s'appelle Alan Freed, et il a cette idée, il se dit, de toute façon, les jeunes blancs américains continueront d'écouter la musique. Donc, comment faire pour que cette musique soit mieux acceptée? Je vais la renommer. Et donc, il a décidé de commencer à l'appeler rock and roll. Et donc, rock and roll, c'est l'invention de ce DJ de Cleveland. Et donc, rock and roll, c'est un rebranding de la musique rhythm and blues. Le rhythm and blues et le rock and roll, dans les années 50, sont la même musique. Ensuite, bien évidemment, dans les années 60, le rock commence à prendre une identité qui est un peu plus propre. Mais quand on parle du rhythm and blues et du rock and roll dans les années 40 et 50, c'est la même musique.
Alors, il y a un syncrétisme aussi comme ça, c'est les Rolling Stones qui puissent dans le blues.
Oui, et les Rolling Stones d'ailleurs qui ouvraient, qui faisaient les premières parties de et Ike et Tina Turner.
Ah ben, puisqu'on en parle, justement, quelle image avait-elle auprès des grandes stars et grands groupes de rock et de pop dans les années 60 et 70.
Alors Tina Turner, c'est intéressant parce que c'est Tina et Ike qui avaient donc cette influence, par exemple sur on parlait des Rolling Stones, on parle aussi spécifiquement de Tina Turner dans cette il y a cette expression qui a été créée par une chercheuse noire américaine qui dit la noirceur audible, et donc la noirceur audible c'est une façon de chanter de Tina Turner qu'on peut aussi retrouver chez James Brown, qu'on peut aussi retrouver, vous savez, cette sorte de chant de
chez James Brown, exactement
de rugir, d'utiliser sa voix d'une façon particulière, hein, tout en puissance, et donc cette façon de chanter infuse ensuite le rock. Donc on va retrouver ce rugissement parfois chez Mick Jagger, on va le retrouver exemple chez Janis Joplin qui cite Tina Turner comme une de ses influences importantes. Donc Tina Turner, c'est sa façon de chanter, c'est sa puissance ensuite qui se retrouve dans le rock plus tard.
Alors il y a la puissance, mais il y a aussi de la subtilité dans l'utilisation de la voix sur des notes différentes, sur des tons différents.
Bien sûr, mais quand on parle de Tina Turner et Ike Turner, Ike lui impose une façon particulière de chanter. Donc elle rugit beaucoup quand elle chante avec Ike, mais dès qu'elle se défait de Ike...
On l'a entendu d'ailleurs, c'est plus la même chose. Hein.
Exactement, ouais. Donc là, l'esthétique de sa voix change complètement, elle est beaucoup plus en douceur, en texture, et on entend qu'elle peut faire autre chose que crier sur des titres.
France Inter. Sensible.
Rhoda Chococam, je rappelle que vous êtes journaliste et critique musicale et vous êtes l'autrice du livre intitulé « Sensible, une histoire des rhythm and blues français » paru aux éditions Audimat. Quel est votre regard sur Ike Turner, à la fois un regard artistique et sur l'homme ?
C'est une question tellement compliquée. Je dirais que Ike Turner est considéré comme un pionnier dans le rhythm and blues et le rock and roll, donc du début des années 50. On a écouté ensemble Rocket 88 qui est cité par énormément d'artistes de rock and roll comme étant le titre qui leur a donné envie aussi de faire le même type de musique. C'était un dénicheur de talent. Ensuite, l'homme lui-même, j'ai envie de dire...
Oui, on a compris.
Exactement. Donc j'ai envie de dire pionnier et en même temps absolument pas fréquentable et violent, et qui, de toute façon, a sa place dans l'histoire parce que il a été important à un moment donné.
Alors justement, le couple, lorsque Tina quitte son mari, le groupe est en pleine tournée. Or, si elle sauve sa peau, les salles de concert se retournent contre elle. Ils disent, c'est elle qui a déserté, ça paraît complètement fou. On n'acceptait pas que comme ça un groupe se scinde, il fallait que ce soit Ike et Tina. On ne croyait pas que Tina, toute seule, pouvait faire son chemin et plaire au public.
C'est aussi, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt sur la condition des femmes noires dans l'industrie de la musique, on se retrouve avec des contrats qui sont extrêmement abusifs, donc les personnes qui sont vulnérables se retrouvent à devoir payer les pots quand les concerts ne sont pas assurés, donc c'est plus une question d'exploitation constante des personnes, et ce n'est même pas uniquement une histoire qui est uniquement liée à la condition des femmes noires dans l'industrie musicale, c'est aussi juste des artistes noirs qui parfois n'ont jamais été payés ou parfois ont dû vraiment trimer pour pouvoir jouir du fruit de leur travail. Donc la situation de Tina, c'est aussi une situation juste qui est tristement récurrente dans
et répandue, bien sûr. Vous avez remarqué que souvent les histoires de groupes de musique, de chanteurs, de chanteuses, et quelle que soit la musique, c'est toujours des légendes noires. On est soit sous l'emprise de la drogue, et ça a fait beaucoup de victimes, soit sous l'emprise des hommes quand il s'agit de femmes.
Exactement. Et on revient sur, par exemple, la fin de Billie Holiday, qui a une fin assez tragique, qui meurt sur un lit d'hôpital alors qu'elle est arrêtée, et en même temps, elle est alcoolique, elle a abusé de drogue pendant longtemps. Nina Simone, qui meurt un peu dans, on va dire, l'indifférence. Donc ce sont des histoires qui sont malheureusement trop récurrentes dans l'industrie musicale de l'époque.
Suite à son divorce, Tina Turner mise tout donc sur les prestations dans les shows télé pour retrouver son public. En quoi ces shows à la télé sont importants pour les musiciens de l'époque?
Une nouvelle fois, c'est parce que les shows, les concerts sont souvent des concerts promotionnels. Donc les artistes n'arrivent pas à vivre de ces concerts. Mmh. Et donc à la télévision, dans les années 70, c'est un chèque rapide. On peut venir et on est là le temps d'une soirée, on peut payer ses factures. Donc elle a orchestré son retour à des années 80 à partir des années 70 quand elle se montre à la télé, quand on a la possibilité de la voir justement sur un média de assez répandu et assez vu aux États-Unis. Et donc cette orchestration, c'est pouvoir se refaire une santé financière, mais aussi revenir petit à petit dans l'esprit des Américains.
Je ne sais pas si elle est passée à l'Ed Sullivan Show, parce que Sullivan était un animateur de télévision qui recevait tous les grands, et alors c'était des coups de booster pour les grands, il fallait vraiment passer chez Ed Sullivan. Quelles sont les héritières, s'il y en a, de Tina Turner?
Je pense à une, naturellement, je pense à Beyoncé, qui est sûrement l'héritière la plus légitime actuellement, mais pour plusieurs raisons. Dès le début de sa carrière, je pense par exemple à son deuxième album Déjà Vu, qui sort en 2005, elle a ce titre où elle incarne une Tina Turner des années 2000, et en même temps fait des références à Josephine Baker. Donc c'est vraiment une artiste qui cite beaucoup, et elle a même dit être inspirée de Tina Turner, et je dirais plus récemment avec son album Cowboy Carter, où elle a réussi à gagner donc un prix dans la catégorie country, et elle fait ce que Tina Turner a fait en son temps, où elle se retrouve dans le rock et elle a justement cette légitimité. Ce que Beyoncé fait, c'est une version moderne des accomplissements de Tina Turner.
Alors, puisque vous êtes une spécialiste de rhythm and blues en France, que dire de cette musique et la place qu'elle tient dans notre pays?
Le rhythm and blues en France, ça m'amuse parce que c'est une trajectoire qui a été un peu plus compliqué dans ce pays, on va dire, parce que il y a toujours eu des références au rhythm and blues. Je pense par exemple à certains artistes comme Claude François qui ont peut-être repris. On parle des yéyés. Les yéyés, ce sont justement des reprises de.
Certains. Pour ça, oui, exactement. Bien sûr. Ils sont pas foulés, hein.
Exactement.
Ils ont pris les grands titres britanniques. Et hop,
exactement.
Un tube.
C'est ça, exactement. Et donc du coup, cette musique arrive en France déjà par les yéyés, et ensuite se retrouve vraiment beaucoup plus visible dans les années 90, mais elle est très mal reçue. En France, on n'aime pas nécessairement le R&B. En tout cas, le R&B, sa version moderne des années 90-2000.
On aime ce qui est français, on sait, hélas. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Rhoda Chokocam.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Tina Turner, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Elise Christophe.